Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Pour cette apérophonie, nous sommes avec Interasso Grenoble, une fédération ou une organisation, une association qui représente plein d'associations étudiantes et les droits sur les droits des étudiants, pardon, et des étudiantes. Elle regroupe et soutient plusieurs associations qui luttent pour les droits et les intérêts des étudiants et des étudiantes. Vous portez notamment les projets de Eve, ce café salle de concert sur le campus qui est bien connu des étudiants et des étudiantes. Alpaline aussi, la ligne d'écoute nocturne pour les étudiants et les étudiantes afin de parler santé mentale. Et Agorae, l'épicerie et lieu de vie étudiant. Interélu aussi, l'asso qui lutte pour les droits des étudiants et des étudiantes, l'écologie, l'intégration et l'égalité. Vos engagements sont donc portés par des associations et se manifestent par l'organisation d'événements associatifs, culturels et des ateliers, des projets sociaux aussi, comme l'épicerie sociale, j'en parlais tout à l'heure. Et puis le bureau d'Interasso défend des positions étudiantes locales en siégeant au conseil du FR, Centro et du CROUS. Pour parler plus en détail de tout ça, je suis avec Shanès Belala, présidente d'Interasso. Bonsoir.
Bonsoir.
Et donc, la ligne directrice d'Interasso, c'est de s'engager pour les étudiants et les étudiantes. Et pour ça, vous menez à bien beaucoup, beaucoup de projets, comme je le disais. La première question qui me vient, peut-être, c'est comment s'organise votre grande association pour mener tout ça de front ? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets. Comment vous coordonnez tout ça, en fait ? Comment ça s'organise ?
Du coup, nous, on cherche principalement à faire des projets étudiants. On est des étudiants, c'est vraiment ça qui nous anime. Et on essaye de faire en sorte de pouvoir toucher un maximum de domaines et de faire en sorte que ça plaise au maximum de gens. Et du coup, on s'organise par pôle dans notre bureau. Du coup, on a un grand bureau, ce qu'on appelle le bureau fédéral, puisqu'on est une fédération. Du coup, c'est le bureau fédéral. Et il y aura des pôles, par exemple, pour les projets. En général, c'est des pôles dédiés aux projets, donc pôle Agorae, pôle Alpaline. Quand il s'agit de domaines un peu plus vastes, par exemple la défense des droits, ça va être un pôle entier avec une personne qui sera missionnée sur l'accompagnement des élus, une qui sera missionnée sur, par exemple, les affaires académiques, les affaires sociales et ce genre de choses. Donc le but, c'est de pouvoir être un peu nombreux pour pouvoir se dispatcher un peu le travail et pouvoir essayer de tout faire, en tout cas, dans l'ordre.
Et en tant que présidente est-ce que c'est plutôt une formalité ? Est-ce que c'est un statut ? Ou est-ce que vous avez des missions particulières en tant que présidente ?
Oui. Après, en général, ça va être aussi beaucoup un titre. C'est-à-dire qu'on y met un peu ce qu'on y veut derrière. Ce n'est pas un poste très fixe. Et chaque présidence a un peu sa manière de faire. Moi, je sais que j'essaye un maximum de pouvoir coordonner le bureau, les actions. Je sais aussi que je suis un peu la référente auprès des institutions. Parce que souvent, quand tu parles à quelqu'un, tu parles à la présidence, c'est plus simple à trouver en plus. Je fais un peu le lien aussi avec le national, puisqu'on est adhérent à la Fédération des associations générales étudiantes, donc la FAGE. Donc c'est un peu ce lien-là que j'essaye de faire entre tout, de faire un peu de coordination, on va dire, d'essayer de jongler avec tout ça et de m'occuper un peu de tout. Je sais que je suis aussi beaucoup sur Eve, le projet Eve, parce que, encore une fois, moi je suis étudiante en art du spectacle, donc c'est quelque chose qui me plaît assez. Donc voilà.
Et quel est le fonctionnement en fait d'Interasso ? Enfin, vous en avez partiellement parlé. Quel est son statut peut-être et quel rôle est-ce qu'elle joue concrètement ?
Par statut, est-ce qu'on sous-entend quel régime ?
Oui, c'est ça.
En gros, Interasso, c'est une asso loi 1901, donc à but non lucratif, assez classique, comme il en existe assez souvent. Nous, du coup, je disais tout à l'heure, un terme un peu barbare, on appelle ça une fédération de territoire. En gros, notre but, c'est de pouvoir réunir des associations étudiantes sur le campus, justement pour pouvoir faire de la lutte pour la cause étudiante, parce qu'on part du principe que rien de mieux que des étudiants pour parler des étudiants. En général, on est au cœur des problématiques et du terrain. Et du coup, le fait de réunir des associations étudiantes, ça nous permet de pouvoir sonder aussi plus de filières que le simple bureau en compose. Et de pouvoir faire de la lutte. Après, que ça passe par deux biais. Je sais qu'on a un biais beaucoup de terrain, par exemple avec les projets, où là, ça va être vraiment répondre à un besoin précis avec une action concrète. Et après, il y a un biais plus politique avec les élus, comme tu disais, UFR, CFVU, CA, que ce soit l'UGA ou au CROUS, tout ça, un petit peu aussi au national avec le réseau de la FAGE et les actions communes, quoi.
Et chaque pôle est composé de plein de bénévoles, du coup, c'est ça?
C'est ça. C'est un peu le principe pour pouvoir travailler en équipe. Après, c'est parfois aussi transversal, dans le sens où tu as besoin en fait, de parler aux gens pour pouvoir avancer sur tes thématiques. Donc, c'est un peu l'idée de ça.
On va parler dans un premier temps d'un de vos grands axes directeurs, qui est celui de la lutte contre la précarité et les discriminations. Notamment avec le projet Agorae, que vous soutenez, une épicerie sociale et un lieu de rencontre. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'une personne qui voudrait aider simplement peut par exemple donner un paquet de pâtes ou des conserves? Comment ça fonctionne cette épicerie?
Du coup, c'est une épicerie qui est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le lundi, de 17h à 20h. Et en gros, le but, c'est de pouvoir vendre des produits à 20% du prix du marché 2025. 10% du prix du marché 2025, pardon, je me perds. Et on fonctionne avec un pôle du coup dans le bureau fédéral qui gère un peu tout ça, qui chapeaute, c'est-à-dire que tous les aspects un peu opérationnels et représentation auprès des instances, ça va être principalement le bureau fédéral qui s'en occupe. Et ensuite, on a des bénévoles référents, c'est-à-dire que c'est des bénévoles qui sont là depuis déjà plusieurs années. Il y a des bénévoles qui étaient là même avant moi, donc ça fait déjà quelques temps. Et c'est des personnes qui connaissent très bien, qui savent très bien comment fonctionne l'épicerie, qui savent très bien gérer des permanences, parce que du coup, le projet Agorae fonctionne uniquement avec des bénévoles et des volontaires en service civique aussi. Et du coup, c'est sur, pour être bénéficiaire, c'est sur dossier. On fait deux campagnes d'inscription, une en septembre et une en janvier. Et après, pour être bénévole, vous pouvez venir toquer à l'épicerie. On a un compte Insta aussi. On est toujours à la recherche de bénévoles pour aider. Ça, il n'y a aucun souci. Vous êtes les bienvenus. Vous serez formés aussi à ça. Il n'y a pas de souci, notamment sur les normes HACCP, parce qu'on parle quand même de nourriture et de maîtrise sanitaire, donc ça c'est carré.
Et vous vendez des produits alimentaires, des denrées alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène par exemple?
Oui, on essaye d'avoir un maximum de choses. Alors souvent on fait aussi, grâce à nos partenaires donc de la Banque Alimentaire, de l'Andes, on essaye d'avoir un maximum de choses. Après on rajoute aussi nous, de notre côté, quand on voit qu'il manque certains aliments. Donc les denrées sont assez variables, dans le sens où, par exemple, quand on reçoit des fruits et des légumes, on ne sait pas trop en avance ce qu'on va avoir. On sait à peu près la quantité, mais on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc, c'est toujours une surprise. On essaye aussi après fournir des petits guides de recettes, avec les légumes en question, parce que ce n'est pas toujours évident de savoir cuisiner ça, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Mais oui, on essaye d'avoir un maximum de choses. On a aussi une gratuiterie, notamment pour les vêtements, pour la vaisselle, qu'on reçoit aussi beaucoup. Donc là-dessus, il n'y a même pas besoin d'être bénéficiaire, juste passer faire un tour et voir ce qui vous plaît.
Et qui est tout le temps là, qui est permanente?
Oui.
Très bien.
Okay. Et de temps en temps aussi, notamment quand il fait beau, donc ces derniers temps, on a aussi, on peut sortir les articles pour justement faire un peu la promotion de ça dehors, c'est plus sympa.
Et elle est basée où, cette épicerie sociale?
Elle est à la résidence Ouest, donc au 107 rue des Saillés, près de la laverie, à côté de l'accueil du CROUS.
Est-ce que vous constatez une précarité étudiante qui est croissante aujourd'hui?
Oui, notamment on l'a beaucoup vu cette année par rapport aux autres années, parce que on sait que la précarité étudiante touche d'autant plus les étudiants internationaux. Avec la suppression des APL pour les étudiants internationaux en septembre, on l'a très vite vu, puisque comme on fonctionne sur dossier, on calcule ce qu'on appelle le reste à vivre journalier. Et cette année, ils étaient particulièrement bas, dans le sens où on a déjà eu des montants très bas, mais cette année, il y en avait beaucoup plus que les autres années. Et parfois, les montants étaient vraiment bas, très bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, de personnes qui nous envoient aussi des messages pour dire « Est-ce que vous refaites des campagnes d'inscription ?» chose qu'on ne peut n'y arrive, enfin, on ne peut pas accueillir plus d'étudiants, on aimerait beaucoup mais on ne peut pas pousser les murs, donc c'est assez compliqué, mais oui c'est quelque chose que l'on voit beaucoup.
Sans parler de tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce projet-là et qui ne participent pas, c'est un vrai fléau. Et vous avez d'autres projets en rapport avec cette précarité étudiante croissante, avec par exemple le projet Prête ton canapé, donc qui est un service de relogement d'urgence. Comment ça fonctionne ça aussi?
Du coup, c'est un projet qui a été abandonné. non, c'est pas grave. Non, c'est un projet qui a été abandonné avant que j'arrive même. Je crois que ça a été abandonné à cause du Covid ou quelque chose comme okay. ça. Enfin, ça a été arrêté très.
De même pour Colocaction.
Oui.
Pardon. Oui. Et en fait, pour beaucoup de vos services, de manière générale, vous devez être amené à travailler avec des instances politiques et publiques, comme le CROUS, la FAGE aussi, j'imagine. Avec qui, du coup, vous travaillez? En plus du CROUS et la FAGE, est-ce que c'est tout? Ou vous travaillez aussi peut-être avec l'université?
Oui. Pour l'Agorae, c'est assez particulier parce que, du coup, c'est aussi un projet national. L'Agorae est un projet qui a été créé par la FAGE en 2011 pour répondre à une précarité qui était censée être passagère. Aujourd'hui, dans le réseau de la FAGE, on est à 45 Agorae ouvertes partout en France. Pour quelque chose qui devait être temporaire, c'est assez aberrant. Mais du coup, oui, on est beaucoup en partenariat avec les instances, mais aussi les associations, comme je disais, l'ANDES, qui est l'association des épiceries sociales nationales. Enfin, c'est pas tout à fait le bon anagramme, mais c'est ça. Et du coup, l'UGA, le CROUS.
Et comment ils contribuent à ce projet-là, ces instances?
Principalement par le CROUS, déjà, on est accueilli, enfin, on a une convention d'hébergement chez eux. Donc, on est hébergé chez eux. Ça contribue beaucoup d'avoir un espace pour faire une épicerie. Après, ça va être aussi beaucoup de financement et d'accompagnement aussi du projet, c'est-à-dire écouter les nouvelles, notamment quand c'est des nouvelles équipes, sur les partenariats qu'on pourrait avoir, sur des idées, sur ces genres de choses. C'est très très gratifiant et très très c'est indispensable pour nous aussi d'avoir ça, d'avoir une continuité de personnes qui restent, qui même si ne sont pas au cœur de l'action, gardent quand même un petit œil sur tout ce qui se passe.
Comment je peux l'exprimer? Est-ce que le CROUS, par exemple, vous aide aussi financièrement, du coup?
Ça peut. Enfin, ça dépend des projets qu'on peut avoir. Donc, c'est possible. Là, tout de suite, j'ai plus en tête l'historique des subventions qu'on ait pu leur demander. C'est quelque chose qui peut se faire si on leur demande. Là, tout de suite, j'ai pas en tête.
Et vous avez aussi, du coup, un rôle politique au sein du CROUS, parce que vous représentez les étudiants en siégeant au conseil du FR et du CROUS. Mm. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous défendez?
Oui, bien sûr. Du coup, au CROUS, on a deux sièges. On a une élue qui est de Grenoble et un élu qui est de Chambéry, parce que c'était aussi important pour nous, parce qu'on partage le même CROUS avec Chambéry. Ce qu'on défend, c'est quelque chose qui... C'était très récent, d'ailleurs, les élections CROUS, si jamais c'était en février. Donc, pour ça, on avait établi une profession de foi, pardon. Et du coup, nous, nos valeurs, ça reste quand même de pouvoir travailler avec les institutions pour, justement, les étudiants, pour les revendications. C'était beaucoup sur tout ce qui était du logement, sur les rénovations. Ça a été le repas à 1 euro qui est passé un peu amèrement, puisque, bon, on a eu le repas à 1 euro, mais peut-être pas les financements nécessaires. Donc, on verra jusqu'à quand il tient, ce repas, malheureusement. Mais ça a été tout ce genre de choses et on défend le fait de pouvoir aussi être apartisan et assez indépendant pour pouvoir défendre les étudiants au mieux, en fait.
Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces élections, qui peut voter? Comment on vote aux élections CROUS?
Du coup, c'est tous les... Enfin, pour les... Pardon, oula, pour les élections CROUS, c'est tous les étudiants qui sont dépendants du CROUS Grenoble-Alpes. Donc c'est évidemment Grenoble, Chambéry, toutes les délocalisations aussi de l'UGA. Donc ça veut dire Valence, un peu plus loin aussi, les Yvelines en Ardèche. Et c'est un vote en ligne. Donc normalement, c'est quelque chose qui a... Enfin, on reçoit un mail de la part de... De la part du service dont j'ai oublié le nom, qui donne des identifiants et un code sur lequel on peut après s'identifier et voter. Ça a lieu tous les 2 ans. En général, c'est la première semaine de février. Là, c'était du 3 au 5.
Et pourquoi vous diriez d'aller voter auprès des étudiants et des étudiantes ?
Bah parce que au-delà de dire que c'est aussi un droit et un devoir citoyen, c'est aussi important de faire valoir la voix étudiante pour pas forcément laisser les personnes qui ne sont pas au cœur du sujet décider pour nous, parce que c'est aussi important de se dire que on a l'espace, on a la possibilité d'être entendu et que c'est vraiment le moment où il faut en parler. Et en soi, ça prend pas trop de temps non plus, ça reste quand même relativement court pour après ces 5 minutes pour 2 ans de représentation. Donc c'est quand même assez bénéfique.
Donc pouvoir voter pour être représenté, on revient tout de suite après une interlude musicale, Val de larmes de Eddy de Préto.
Jamais jugé coupable, moi. Jamais connu de plaquage, moi. J'ai jamais vu de haine sur mon visage blême, dit sans problème, moi. Jamais connu la gave, moi. Ni été traîné au sol, moi. J'suis passé 100 heures entre tous les contrôles et les chaînes, moi. Pas eu de chant de sirène, là. Hurlé dans mes oreilles, moi. J'ai toujours eu la chance de pouvoir montrer patte blanche, moi. J'te dis, j'ai pas galère, moi. J'avais tout voyant vers moi. Des avenues, des boulevards, sans devoir verser une rente, moi. Pourtant, on était les mêmes. On faisait le même genre de rêve. On traînait les soirs cherchant à occuper nos idées sales, moi. J'avais juste un petit détail qui changeait toutes nos cabales. Bien écrit sur mon faciès, j'étais sauvé par ce visage pâle. Mais fallait quand même venir me voir, voir si j'étais vraiment sage, voir ce que j'avais sous mes airs, voir si j'étais pas plus bas. Fallait quand même venir me faire voir comment était ma cape, voir si mon teint bien trop clair me rendait beaucoup plus fiable. As-tu déjà saisi pourquoi lui mais pas toi? Maintenant tu sais pourquoi ça rage tout en bas des tours du Grand Val-de-Larme. As-tu déjà compris pourquoi tard dans la nuit ça bat toujours le même orage partout tout autour du beau Val-de-Larme? Jugé coupable, moi. Jamais connu de plaquage, moi. J'suis passé au calme devant les barrages et toutes les douanes, ouais. Jamais connu de contrôle, moi. Jamais vu de dérapage, moi. J'suis passé tranquille avec ma peau de fragile qui me sauve, ouais. J'veux pas croire à ça. J'veux pas croire que j'dois tout ça. Juste parce que j'ai les écailles qu'il faut pour être celui qui tombe pas là. J'veux pas croire que quand parfois j'étais en bas, on fouillait pas juste parce que j'avais soi-disant la bonne teinte de marbre. Regarde, je te jure que je suis peut-être même le pire, malgré mes airs de neige trop purs et mes privilèges qui transpirent. Mais putain, je t'assure, ce n'est pas par mon allure que l'on distingue si je suis un gazage ou si je mérite tout un tas de bavures. Pourquoi lui mais pas toi? Maintenant tu sais pourquoi ça rage tout en bas des tours du Grand Val-de-Larme. As-tu déjà compris pourquoi tard dans la nuit ça bat toujours le même orage partout tout autour du beau Val-de-Larme? Ouh.
et vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Je suis avec une représentante, la présidente donc de Interasso, excusez-moi. Je présente donc Interasso, Chanès Bellala, toujours avec nous. Un de vos deuxièmes grands axes, de vos grands principes, c'est celui de la lutte contre l'isolement et pour la santé mentale des étudiants et des étudiantes. Et pour ça, vous avez créé des actions, mais vous accompagnez aussi des BDE, comme le BDE de médecine et le BDE de STAPS. Mmh. On va revenir un peu dessus parce que c'est assez curieux. Quel rôle est-ce que vous avez auprès des BDE? Comment ça fonctionne? Quel est cet accord que vous avez?
Du coup, nous, on fonctionne en système assez descendant, j'allais dire, ascendant, pardon, dans le sens où les associations, du coup, comme tu l'as dit, l'AEMG ou le BDE STAPS sont nos administrateurs. Donc, c'est aussi pour nous un moyen d'avoir des actions guidées. Donc, c'est vraiment les étudiants aussi, enfin, les associations étudiantes qui nous guident dans nos décisions, dans nos choix et dans nos actions. Et en soi, nous, on essaye aussi d'être un support sur le territoire pour eux, parce qu'on fonctionne aussi en ce qu'on appelle le double maillage, c'est-à-dire que nous, on est une fédération de territoire, donc on représente Grenoble, et il existe aussi des fédérations de filières. Par exemple, si on prend l'exemple de l'AEMG, ça va être l'ANEMF, donc l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France, et pour le BDE STAPS, c'est l'ANESTAPS, donc l'Association Nationale des Étudiants en STAPS. Et le but, c'est de pouvoir vraiment essayer d'aider les associations par les deux biais. Donc quand ça va être une problématique plus territoriale et de terrain, on sera là pour y répondre. Et quand c'est une problématique plutôt de filière, dans ce cas-là, la Fédération de filière pourra plus y répondre que nous. Et c'est un peu comme ça qu'on se dit qu'on essaye aussi de créer cet événement, cet engouement associatif, tout en essayant de rester au plus proche des étudiants, du coup.
Et pourquoi le BDE STAPS et médecine particulièrement? Est-ce que c'est lié à cet engagement pour la santé mentale et contre les discriminations aussi, en partie? Au sens où la médecine peut toucher aussi la psychologie, et donc la santé mentale, et de même le BDE STAPS peut toucher tout ce qui est le handisport, etc. Donc les troubles, enfin bref, les handicaps de manière générale.
Oui, c'est des actions qu'on porte assez en commun. Par exemple, l'AEMG, notamment, on le sait que les études de médecine sont des études qui sont très difficiles. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est les premières à promouvoir un peu Alpaline, qui est notre projet justement sur la santé mentale. On a aussi participé à la JNSH, du coup la Journée Nationale du Sport et du Handicap du BDE STAPS, où ils ont justement invité le projet Alpaline à venir aussi, parce que bien-être, être bien dans son corps, être bien dans sa tête, ça va aussi ensemble. Et du coup, oui, c'est tout cet aspect-là qui est assez important. Je sais aussi que l'AESG, qui est l'association un peu des premières années de médecine, a aussi un projet qui leur est propre qui s'appelle les Sentinelles, qui est aussi le but de pouvoir faire la prévention pour la santé mentale. On l'a beaucoup vu ces derniers temps, mais notamment après le Covid. D'ailleurs, c'est de là qu'est né notre projet Alpaline. C'est après le Covid où il y avait de plus en plus des étudiants qui étaient littéralement seuls dans leur chambre, dans leur chambre étudiante, donc très petite et très isolée. Et le but était de pouvoir offrir une écoute et une oreille attentive, quoi.
Et cette année, est-ce que vous avez en tête des actions menées par avec ces BDE-là? Qu'est-ce que vous avez organisé ensemble?
Du coup, la JNSH, oui, ça on a essayé un maximum. Après, je sais que ça va être beaucoup aussi des interventions en amphi, notamment par le biais du coup, des associations de filières, que ce soit l'AEMG, l'AESG, aussi du côté de l'IFSI, pour pouvoir faire la promotion de ça. On est aussi invité sur les stands des associations pour justement avoir aussi notre petit stand et pouvoir aussi faire de la prévention. Poser des flyers, on a aussi des petits stickers avec le numéro d'Alpaline qu'on colle un petit peu partout et qu'on aime bien un petit peu coller aux toilettes, parce qu'on se dit c'est vraiment le moment où les gens sont seuls et peuvent voir ce truc-là. Donc voilà.
Et donc des moments en amphi, donc des conférences aussi sur des sujets.
On a organisé avec vous, il me semble, avec Radio Campus, une intervention avec un psychologue ou une psychologue, je crois. Je suis J'étais pas sur le dossier, donc je me rappelle à peu près de ça, mais j'ai pas tous les...
Donc parfois il y a aussi des professionnels qui interviennent aussi dans vos conférences. Donc je n'oublie pas, comme vous en parliez, de ce beau projet qui est Alpaline, donc une ligne téléphonique nocturne pour les étudiants et les étudiantes. Vous organisez des permanences avec des personnes qui sont au bout du fil pour discuter avec les personnes qui en ressentiraient le besoin. Donc les personnes qui font les permanences, est-ce qu'elles sont qualifiées dans la santé mentale ou est-ce que ça peut être qui que ce soit ?
Bah du coup c'est des bénévoles écoutants, donc c'est des étudiants aussi. Nous on aime bien cet aspect-là de pouvoir dire que, encore une fois c'est très étudiant, donc c'est par les étudiants, pour les étudiants. Après c'est des étudiants qui sont quand même assez motivés, enfin on essaye de voir leurs intentions et tout ça, et puis après on les forme à l'écoute active, enfin ils sont formés par des professionnels de santé et il y a une supervision par un psychologue, un vrai psychologue quand il y a des appels et tout ça, pour pouvoir aussi parler de ce qui s'est passé, parce que c'est pas forcément évident de gérer tout ça, notamment quand on est soi-même étudiant.
Donc l'idée c'est que les étudiants aient pas forcément affaire tout de suite à un professionnel, mais justement qu'il y ait une discussion assez informelle en fait entre deux personnes et qu'elles se sentent écoutées par quelqu'un comme ça.
C'est ça, c'est un peu le but de se dire que c'est pas, ça peut être un premier pas vers aller voir un vrai psychologue. Ça peut être aussi pour demander des ressources, parce que nous, on a plein de ressources, que ce soit des coordonnées ou des administrations, parce que parfois, on nous appelle aussi pour des problématiques, pas forcément psychologiques, mais en lien, mais pour avoir des solutions. Donc, on a les ressources aussi nécessaires. Mais ça peut, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas non plus trop de pression à se mettre quand quelqu'un appelle Alpaline, et on essaye aussi de faire en sorte, et j'espère que ça marche, mais de se dire que n'importe qui en fait est légitime d'appeler Alpaline. Souvent on croit qu'on dérange ou que quoi que ce soit. Non, on est, enfin Alpaline est là pour ça. Si, enfin il n'y a pas besoin d'avoir un vrai gros problème, enfin en tout cas dans notre perception, pour se dire qu'on peut appeler Alpaline. Il n'y a aucun souci, même si on se sent seul, c'est déjà suffisant pour se dire qu'on a besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil.
Et justement, vous me coupez l'herbe, s'il vous plaît, parce que j'allais dire que ce projet, c'est aussi une manière de lutter contre l'isolement, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est quelque chose que vous constatez aussi beaucoup chez les étudiants, ce problème de... et des étudiantes, bien sûr, ce problème de l'isolement.
Oui, comme je disais, ça a été, ça a été créé pour répondre à la problématique du confinement pendant le Covid, où là, pour le coup, on était vraiment isolés. C'était physique et mental. Depuis, on a vu aussi que ça avait quand même laissé beaucoup de restes, en tout cas, que nous, en tout cas, on reçoit toujours des appels. Donc, parfois, on se dit heureusement que... parce que du coup, ils ont trouvé quelqu'un, mais malheureusement, parce que les gens ont besoin d'aide, c'est toujours le problème d'avoir des projets. ce genre de projet. Mais oui, il y a toujours plein de... l'isolement ne cesse pas. On essaye de faire au mieux. On essaye de créer un peu d'animation sur le campus, notamment avec Eve aussi, pour pallier à ça. Essayer de créer des rencontres. C'est pour ça aussi que notre Agora est un lieu de vie. En soi, c'est aussi pour créer ça, créer du lien. On essaye de créer du lien entre nos bénévoles, parce que parfois on se dit que un moyen de contrer l'isolement, c'est aussi d'aller aider les autres ou de faire des petites permanences. Donc le but, c'est que même au-delà de répondre au téléphone, même les personnes ne se sentent pas seules.
Et quels critères, est-ce qu'il y a des critères à respecter pour être bénévole écoutant ou écoutante ? Est-ce qu'il y a des choses, des cases à cocher ?
Le principal critère, je dirais que c'est d'être étudiant. Mmh. Après, en termes de critères, non, pas spécifiquement. Après, il y a quand même une sélection aussi qui est faite de la part de nos vice-présidentes, vice-présidences Alpaline, parce qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Donc, forcément, on essaye de voir un petit peu la motivation de chacun. Après, en termes de critères... mis à part la motivation, nous, on veille à ce que les personnes soient formées après. Donc, en soi, on ne demande pas aux gens d'être déjà formés à l'écoute active. Si elles sont sensibilisées, c'est mieux, parce que c'est plus simple. Mais tout l'aspect formation sera fourni.
Et cette formation, elle dure combien de temps?
Elle dure un week-end, il me semble.
Et est-ce que quelqu'un qui serait témoin d'une personne en danger ou touchée psychologiquement peut appeler cette ligne téléphonique? Est-ce que c'est possible aussi?
Oui, après, si c'est pour le signaler en tant que tel, il y a aussi la plateforme de l'UGA qui existe, qui est, j'allais dire, beaucoup plus efficace puisqu'elle est reliée directement en fait, à la direction juridique de l'UGA. Donc, ça sera beaucoup plus efficace que nous. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais notre ligne d'écoute, elle est anonyme. Donc, en fait, si quelqu'un appelle, on n'aura pas le numéro de téléphone. Donc on ne pourra pas rappeler la personne s'il y a un problème ou quoi que ce soit.
Donc l'intérêt pour le témoin, c'est peut-être plutôt de se libérer de ce poids-là aussi, dans ce sens-là.
Oui, ça c'est possible.
Je rappelle le numéro de Alpaline qui est le 04 65 84 38 32. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et à le communiquer également aux autres. Un autre axe important est celui de l'écologie et de l'environnement à Interasso. Vous accompagnez par exemple l'asso universitaire, avec TE2RE à la fin, qui cherche à sensibiliser à la cause climatique. Quelles actions vous avez pu mener cette année à ce sujet?
Ça a été beaucoup d'événements, notamment aussi à Eve, que ce soit la projection d'un documentaire sur la fonte des glaces, ou alors il y a aussi eu l'événement sur la fast fashion, sur la sensibilisation à la fast fashion. On a pu participer aussi... je sais que, j'allais dire, on fonctionne beaucoup en interassociatif, parce que interasso, mais le but c'est de pouvoir intégrer de la TE un peu partout, et notamment quand on a fait un événement qui était beaucoup plus sur l'aspect politique. Je sais que le Parlement des étudiants de Grenoble, donc le PEG, a invité un membre d'universitaire pour justement parler de... J'explique un petit peu comment était l'événement, parce qu'il était super. Mais en gros, le PEG organise des simulations parlementaires. Et le but de cette personne de universitaire, c'était de venir pour sensibiliser, entre guillemets, le Parlement et annoncer des urgences climatiques au Parlement pour voir un peu comment ça se passe et puis pour essayer de faire réagir un petit peu tout ça, tout en restant dans une simulation. Mais c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte parce que le dérèglement climatique est bien réel, donc c'était assez intéressant de le voir.
Et est-ce que vous pensez que le public étudiant est encore trop peu sensible à la cause climatique? Pourquoi faire toute cette sensibilisation-là?
Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'aspects aussi qu'on néglige dans notre propre consommation, où on ne se rend pas forcément compte que ça peut être extrêmement polluant. Je pense qu'on a assez bien intégré le fait que les vêtements, notamment, étaient très polluants. Mais il y a plein d'autres aspects où on est complètement qu'on ne voit pas. Et c'est aussi normal parce qu'on ne peut pas tout voir. Mais c'est le but de ces associations-là de pouvoir faire de la sensibilisation. J'ai aussi participé à la fresque du climat, justement, de l'universitaire l'année dernière. Et au-delà de faire de la sensibilisation sur qu'est-ce qui pollue, entre guillemets, c'est aussi comprendre ce que c'est que vraiment le dérèglement climatique. Et ça, pour le coup, c'était très intéressant parce que je sais qu'il y a certaines actions que je ne fais plus pour le climat. Mais en fait, d'un autre côté, je n'ai pas forcément le visuel sur pourquoi je ne le fais pas. Je sais juste qu'il ne faut pas que je le fasse. Et comprendre un petit peu comment fonctionne le climat, que c'est un rouage général, que tout est plus ou moins relié, ça fait prendre conscience aussi plus en détail de ce qu'on fait.
Les explications donnent beaucoup plus aussi l'envie, la motivation de s'y mettre également. Est-ce qu'il y a une forme de désintérêt collectif quand même quant aux questions environnementales? Est-ce qu'on le constate? Est-ce que universitaires en témoignent?
Désintérêt, je pense pas. Peut-être plus du pessimisme sur le fait que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais du désintérêt, non, je pense pas. Et de toute façon, il faut bien qu'il reste quelques petits optimistes, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
Oui, parce que ce pessimisme, vous le jugez mauvais. Enfin, mauvais, c'est peut-être un mot trop manichéen. Mais vous le jugez, pas productif pour cette lutte.
Ça serait un peu, j'allais dire, ça serait un peu blessant de dire que le pessimisme... ne détruit un peu la cause, parce qu'on peut pas, enfin moi je pense qu'on ne peut pas vraiment vouloir aux gens qui n'y croient plus, pas qui n'y croient plus au dérèglement climatique, on est bien d'accord, mais qui n'y croient plus au fait qu'on puisse y arriver, parce que quand on voit les chiffres du GIEC, on peut les comprendre. Mais je pense que si on arrête tous d'y croire, ça sera juste pas... Enfin, on n'y arrivera plus, quoi. Donc c'est essayer un peu de garder cet espoir-là. Peut-être un espoir nié, mais au moins un espoir qui bouge.
Un espoir qui pousse. Et il y a aussi une grande partie des étudiants et des étudiantes qui sont touchés par l'éco-anxiété. Donc c'est cette angoisse du dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites aussi à ce propos-là? Est-ce que vous agissez pour apprendre à vivre avec cette peur, si ce n'est de l'éviter? Pas à votre connaissance. Est-ce qu'une universitaire s'est mobilisée aussi pour essayer de discuter autour de cette éco-anxiété?
Avec les étudiants?
Oui.
Il me semble qu'il y a eu des tables rondes qui ont été organisées avec notamment des spécialistes pour justement discuter de tout ça. Après, je sais que nous aussi, on essaye un peu de faire attention, notamment dans nos projets, parce que c'est pour nous le principal moteur. Enfin, c'est là où on peut faire vraiment attention. On essaye aussi de travailler avec notamment l'UGA, la TREC, donc la direction de la TREC, sur ces aspects-là, sur essayer de comprendre un petit peu comment on peut faire, plus de sensibilisation, peut-être plus d'action aussi, sur tous ces aspects-là.
Et justement, dans les événements que vous organisez avec universitaires et avec des associations qui luttent pour l'environnement, est-ce qu'il y a une attention à communiquer de manière à ce que les personnes n'angoissent pas trop? Est-ce qu'il y a une manière de faire passer les messages qui sont plus douces peut-être, ou si ce n'est plus douces, en tout cas moins susceptibles de faire peur?
Alors sur la communication d'universitaire, je ne sais pas, parce que en fait, universitaire, c'est une association thématique qui nous administre au même titre que le BDE STAPS. Donc on travaille ensemble. Après, je ne sais pas trop ce qui se passe dans leur interne. J'imagine que ça doit être réfléchi et que doit y avoir aussi une sorte de compromis entre ne pas mentir aux gens et ne pas non plus les faire angoisser trop, tout en n'oubliant pas que ça reste quand même une urgence, parce que de plus en plus on parle plus vraiment de... Enfin, on utilise beaucoup plus le terme de urgence écologique aujourd'hui. Donc voilà.
Et est-ce qu'il y a des dates à venir sur les événements autour de l'écologie, à votre connaissance? Ou est-ce qu'avec la fin de l'année, ça s'essouffle un petit peu?
Bon, étant donné qu'on est sur une fin d'année universitaire et qu'on est étudiant, je crois qu'il y a plus trop d'événements. Au national, je sais que ce week-end, il y a la JNTE, donc c'est la journée nationale de la transition écologique. Bon, c'est à Paris, mais il y a des événements sur la TE qui ont lieu quand même.
Et qui a lieu en mai ou en juin?
Ce week-end.
Ce week-end. Très bien. Eh bien.
Ou le prochain. Attendez. Non, je crois que c'est le week-end prochain.
C'est le week-end prochain.
Pardon.
Pas de souci. Et bien, merci. On se retrouve juste après une nouvelle interlude musicale, Tell My Louise de Solane et Yoa.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de un, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Pris comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au fol, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course, cours de route, on lâche rien à part le frein, je prends ma vie dans ma valise, partir comme Tell My Louise. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au fol, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course, cours de route, on lâche rien à part le frein, je prends ma vie dans ma valise, partir comme Tell My Louise. Partir comme Tell My Louise. Mais ça s'est crému la queue. Ils ont le mort parce qu'on va briller plus fort qu'eux. J'ai débité des vérités, des petits lapins ont détalé. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complaît dans le lamentable. S'ils nous balancent des miettes, nous on va retourner la table. Moi je me suis perdue et retrouvée dans les bras de mes douces. La torsée autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse.
Emma et Louise.
Pour la monde des hystériques, si on leur offre volte-face, ça part en chalade historique. Écran de fumée, tête dans la crasse. Coup de phalange dans les obliques, les ignorés arrivent en masse. Y'a une justice vitriolique à se faire descendre par des pétasses.
Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol. Gloire ou folle, viser le drame, à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Je suis avec Interasso, avec Chanès de Interasso. On vient d'écouter Thelma et Louise de Solane et Yoa. Yoa qui, comme beaucoup d'autres artistes, est passée par la scène de Eve. Parce qu'on connaît surtout Interasso via Eve, l'espace de vie étudiante qui est un peu le lieu culturel du campus. Parce que Eve, c'est à la fois un bar, une salle de concert et de spectacle, des soirées dub ou techno, beaucoup, beaucoup de concerts et un refuge pour pas mal d'étudiants, finalement. C'est un lieu qui condense plein de choses différentes. Comment est-ce que vous définiriez ce lieu en quelques mots ?
Waouh, en quelques mots ? C'est un lieu assez polyvalent. Il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir déjà plusieurs événements en même temps, ce qui est assez fou. On peut passer d'une conférence le midi à une soirée de boutique le soir. Ça peut être des jeux dans le petit salon, ça va être une réunion d'association dans la pépinière. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime bien voir aussi les étudiants en fait, s'emparer du lieu, de juste venir et de se dire bon, les tables, on les met là. Bon, tant que ça ne bloque pas les études de secours, hein, on est bien d'accord, mais juste se dire que... Ils se sentent suffisamment à l'aise pour se dire, en fait, ils font un peu comme ils le veulent dedans.
Et de quoi est composé le bâtiment Eve pour celles et ceux qui ne le verraient pas ? Comment ça se compose ?
Ouais. Moi, je le divise un petit peu en trois, dans le sens où il y a une partie qui est quand même assez connue, donc c'est le bar et le café. Tout le monde voit à peu près ce que c'est, il n'y a pas trop de pièges. Il y a la partie aussi salle de spectacle, c'est une salle polyvalente où vraiment tout peut être fait, donc ça peut être une diffusion de films, une pièce de théâtre, un concert, tout, vraiment tout. Et il y a un peu l'étage où ça va être beaucoup plus des bureaux, beaucoup plus associations, c'est-à-dire que déjà il y a trois bureaux d'associations, il y a Radio Campus, il y a nous juste à côté, et il y a Intègre aussi, qui est une association qui accueille les étudiants internationaux. Et après il va y avoir la pépinière d'initiative, donc c'est à la fois un peu le bureau des alternants qui travaillent là-bas, mais c'est aussi un service qu'on peut proposer pour justement aider les associations étudiantes sur un peu tout, c'est-à-dire comment on se déclare, comment on peut, enfin à qui on demande quelle subvention, comment on peut faire un événement. On sert aussi de domiciliation pour les associations, ce qui est vachement pratique, notamment quand on veut ouvrir un compte bancaire. Donc c'est vraiment cet aspect-là à l'étage d'associatif.
Et du coup, je viens sur la pépinière. C'est un espace, comme vous le disiez, où les associations peuvent emprunter du matériel, faire des réunions, trouver les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de leur association, finalement. Comment est-ce que vous accompagnez un peu les assos dans leur projet ? Par quoi votre aide peut se manifester ?
Du coup, ça va être pas mal en lien avec l'équipe des salariés. Ça va être leur travail justement d'accompagner là-dessus, de monter des projets. Soit ça va être un lien plutôt administratif, donc ça va être comment on demande des subs, à qui on les demande aussi, ça peut être pertinent. Après, comment on utilise du matériel, on a un régisseur général aussi pour ça, comment on utilise du matériel, comment on fait, ce genre de choses pour pouvoir justement créer l'événement. Donc c'est tout cet aspect-là où vraiment on peut accompagner s'il y a besoin de comprendre quelque chose, s'il y a besoin... Le but, c'est vraiment que les associations puissent venir et demander, exposer leur situation et que nous, on puisse trouver une solution.
Donc vous accompagnez aussi des personnes qui voudraient créer une asso et qui ne savent pas vraiment par où commencer aussi ?
Oui, on peut. Quand il y a plusieurs personnes qui nous parlent d'un même projet, on peut essayer de voir pour les mettre en lien, parce que ça peut être aussi l'occasion.
Donc il n'y a pas besoin d'avoir encore le statut d'association pour demander vos services ?
En soi, nos services, ils sont gratuits. Donc, si les salariés ont le temps, oui. Parce qu'en général, ils ont aussi des réunions. Donc, tant que c'est du temps libre, oui. Enfin, du temps libre de salariés, bien sûr. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'être une asso pour venir nous parler. juste avoir une envie, une idée. Nous, on peut essayer de voir si on connaît peut-être des associations, quand il y a des personnes qui viennent nous voir en nous disant « Ah, bah, moi, j'aime bien telle thématique » ou quoi que ce soit. Enfin, si quelqu'un nous dit « Moi, j'aimerais bien faire de la sensibilisation, par exemple, sur la transition écologique, à tout hasard », bah, on pourrait très bien la rediriger vers universitaire.
Et comment est-ce que les associations peuvent se rendre à la pépinière ? Enfin, au sens où... quelles sont les demandes les plus fréquentes, peut-être, à la pépinière ?
En général, étant donné... Enfin, ça va être beaucoup sur le prêt de matériel, sur les tables. On peut prêter des tables, des barnums, des bancs. Tout ça, quoi, pour faire des stands, notamment.
Et on n'a pas forcément besoin de s'inscrire quelque part pour...
Alors, il y a, si, y a l'inscription à la pépinière, du coup, qui est plus obligatoire, parce que du coup, ça nous permet aussi d'avoir les assurances, notamment quand on prête du matériel, bon, qui peut parfois coûter un petit peu cher. Mais oui, du coup, c'est 30 euros pour les associations de moins de 3 ans et 50 pour les associations de plus de 3 ans. Mais en soi, c'est une inscription qui est assez rentabilisée, puisque après, on peut faire autant d'événements à Eve qu'on veut et la salle est gratuite.
Oui, donc c'est assez avantageux. Combien d'associations à la louche se rendent à la pépinière ? Est-ce que vous avez une idée ?
Oui, une cinquantaine.
Une cinquantaine, donc c'est énorme à l'échelle du campus en tout cas. Et donc vous accompagnez le projet presque de A à Z parce que vous les faites commencer, puis il y a le projet qui se réalise sur la scène même de Eve. Vivien, à cette scène de Eve, pourquoi est-ce qu'il est si important de créer un espace comme Eve dans lequel les gens peuvent se rencontrer, se divertir, élaborer des projets? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière tout ça, en fait?
Oh bah, les enjeux, ils sont multiples. Moi, je suis une art du spectacle, donc forcément, promouvoir tout ce qui est aspect artistique, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Après, si on veut trouver des... Hors ma passion, bien sûr, c'est aussi important pour nous de se dire que la vie étudiante... même si ça paraît bizarre comme ça, mais c'est pas que des études. On peut aussi faire plein de choses à côté, on peut aussi s'épanouir autrement. Et donc, faire de l'associatif, créer des projets, mener des projets, c'est aussi quelque chose qui est très enrichissant et très épanouissant.
Mais parlons de votre passion, puisqu'on y est. Quel est l'enjeu de la culture, en fait, chez les étudiants et les étudiantes ? Parce que F, ça porte quand même énormément cet enjeu. Pourquoi, en fait ? Pourquoi on a cette importance du spectacle ? Et de l'art ?
Bah, si on veut commencer à philosopher un petit peu, on peut dire que l'art, c'est quand même quelque chose qui réunit tous les humains. Avoir cette culture-là à Eve, notamment culture étudiante, qui est encore une autre culture, bah, ça permet de nous rapprocher entre nous, même si nos filières sont très différentes, même si parfois bah, nos origines peuvent être très différentes, même si nos coutumes, nos religions, nos projets politiques, enfin que sais-je, sont très différents, bah, on se retrouve quand même réunis au même endroit, à regarder les mêmes choses, avec les mêmes passions, cette chose-là qui est super importante. Pour moi, Eve, c'est un endroit qui réunit les étudiants et la communauté étudiante.
Et est-ce qu'il y a un peu, à votre sens, un manque de lieux dédiés à l'associatif, comme le fait Eve, pas tant de spectacles, parce qu'il y a pas mal de choses, notamment avec le Crous, mais plutôt à l'associatif, des endroits où on peut accueillir des projets, des bureaux, des endroits où les associations peuvent se retrouver. Et est-ce que du coup, Eve subvient à ce besoin-là ?
Oui, nous, on essaye de répondre un maximum à cette demande. Encore une fois, on a la pépinière, le petit salon, mais on ne peut pas pousser les murs. Mais on essaye de répondre à ça. Je sais que c'est une problématique de plus en plus pour les associations étudiantes de se dire qu'elles n'ont pas de bureau, qu'elles ne peuvent pas forcément se réunir pour des réunions dans un espace ou ce genre de choses. Les endroits qui existent pour les associations, il y en a plusieurs qui ne sont pas forcément Eve, mais qui ne sont pas forcément non plus comme Eve, entre guillemets, dans le sens où si on part pour des trucs plus institutionnels, il y a notamment toute la DVE, la direction de la vie étudiante de l'UGA ou du CROUS, qui travaille aussi sur ça, notamment sur les formations, sur guider les associations, tout pareil, quoi. Il y a aussi la maison de l'association de Grenoble, qui peut aussi être un appui sur ça. C'est vrai qu'il faut quand même connaître que ça existe quand on monte une asso, Mais il y a plein de moyens de trouver de l'accompagnement. Est-ce que c'est suffisant ? Ça, je dirais que ça dépend des assos. Il y a nous aussi, on peut aider pour les associations. Donc je pense que ça dépend beaucoup de ce que recherchent les associations.
Et en plus d'être d'être tout ça en fait, en plus d'être un café, d'être un bar, d'être une salle de spectacle et un lieu pour les associations, c'est aussi un espace de santé et un cellier solidaire. Parce qu'en plus d'Agorae, il y a aussi l'épicerie solidaire. Il y a aussi le cellier solidaire, pardon, au rez-de-chaussée. Pourquoi avoir ajouté ce cellier en plus de l'épicerie Agorae ? Quelle est sa différence ?
Bah déjà, il n'est pas au même endroit. Donc ça nous permet aussi d'avoir un petit coin qui n'est pas forcément directement dans l'épicerie. Il est ouvert sur les horaires de Eve, qui sont des plages horaires beaucoup plus grandes que celles de l'Agorae. Et c'est vraiment quelque chose d'assez libre, dans le sens où, avec l'Agorae, quand on a des denrées non périssables, donc notamment des concerts ou ce genre de choses, on en pose, parce qu'on sait que n'importe qui peut en avoir besoin, et le but c'est que la personne passe, prenne, peut déposer aussi si elle veut, enfin si elle peut surtout, plus que si elle veut. Mais le but c'était aussi de pouvoir proposer quelque chose où... L'endroit est un petit peu caché, donc parfois on se dit que c'est dommage, mais parfois on se dit que ça peut être aussi bien pour les personnes qui n'oseraient pas faire le pas d'aller, par exemple, dans une épicerie sociale et solidaire ou quoi que ce soit, de juste passer, prendre des conserves et puis partir. Quoi.
Et tout le monde peut y aller ?
Oui.
Il n'y a pas besoin de dossier ?
Non, le cellier solidaire, il est vraiment posé à côté du lavabo sur le bar annexe.
Très bien. Et est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour ce cellier est-ce qu'il y a, je sais pas, besoin d'un produit plus qu'un autre, si jamais
En tout cas, on essaye beaucoup d'avoir des choses qui ne pourrissent pas et qui ne périment pas. Donc les fruits, les légumes, on évite. Tout ce qui va être conserve, riz, pâtes, ça oui.
Et il y a aussi un espace santé à Eve, donc un espace de documentation avec du matériel de prévention à l'étage, à côté de l'ascenseur. Comment est-ce qu'il fonctionne ? En quoi il consiste ?
Donc le but c'est d'avoir il y a beaucoup de prévention sur à peu près tout, c'est-à-dire que ça peut passer sur les maladies sexuellement transmissibles, sur les effets de l'alcool, sur certaines drogues aussi. Le but c'est de faire de la prévention, mais de pas forcément forcer les gens à le lire ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est assez libre et en libre service aussi, donc les gens peuvent juste venir feuilleter, prendre le petit flyer. On organise aussi beaucoup d'actions de prévention et on en accueille. Il y avait un test sur les IST, je crois. Récemment, on a aussi participé avec la SMERA à organiser un test, un dépistage auditif, justement pour voir un peu où on en était. Ça reste quand même important puisque on est une salle qui accueille beaucoup d'étudiants et que souvent on sait que la santé c'est pas forcément ce qui est notre priorité quand on est étudiant, notamment quand on est assez précaire.
Et en fait on remarque que l'espace Eve subvient un peu à tous les besoins des étudiants. Est-ce que c'est un peu le but ? Est-ce que c'était un peu l'ambition de base ?
Je pense que ça s'est fait aussi assez naturellement de se dire qu'il y a plein de problématiques et que souvent les étudiants viennent et nous demandent quelque chose et on se dit « Ah, peut-être que c'est un problème, mais il faudrait qu'on... » Enfin, si les étudiants ont Eve comme repère, il faudrait aussi que Eve puisse être un maximum un repère pour les étudiants, quoi. De se dire qu'il faudrait qu'il y ait un maximum de choses sans forcément être dans l'expertise de tout. Puisqu'encore une fois, le petit coin de santé, on n'est pas non plus le centre de santé étudiant. On peut rediriger vers ce centre-là. Mais si c'est un premier pas pour se dire « Ah, peut-être que j'ai un problème avec quelque chose », c'est toujours ça de gagner.
On est vers la fin de l'année, les partiels commencent à être passés. Est-ce que vous aussi, vous prenez des vacances à Eve ?
Oui, bien sûr.
Jusqu'à quand est-ce que vous êtes actif et active cette année ?
Alors, le café est fermé du 3 juillet jusqu'au 1er septembre. Mmh. Après, il y a l'équipe salariée qui part une semaine plus tard et qui revient une semaine plus tôt pour tout préparer.
Très bien. Donc, une association qui porte autant des projets sur la santé mentale et contre la précarité étudiante qu'autour de la culture. C'était donc Interasso pour notre apérophonie. Merci à Chanès Bellala, présidente d'Interasso, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à Zoé pour la technique. Restez à l'écoute et très bonne soirée sur Campus Grenoble 90.8.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !